commence par le journal de Camille Manière. Bonjour Camille.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Ces jours de sacre hyper-présidentiel aujourd'hui en Turquie où Recep Tayyip Erdogan prête serment pour un second mandat à la tête d'un système politique où il détiendra l'ensemble des pouvoirs.
La piste terroriste est retenue en Tunisie où une attaque a tué hier 6 membres de la garde nationale près de la frontière algérienne dans le nord du pays.
À Londres, le ministre du Brexit, David Davis, démissionne. Il désapprouve la ligne soft retenue par Theresa May pour négocier la sortie de l'Union européenne.
Nous irons à Londres dans ce journal, mais ce sera pour marquer l'arrivée de la marche de solidarité avec les migrants qui étaient partis il y a 2 mois de Vintimille.
Le Rassemblement National ex-FN dénonce, lui, un gouvernement des juges, les magistrats qui instruisent le dossier sur les emplois présumés fictifs du FN au Parlement européen ont ordonné la saisie de 2 millions d'euros de subventions publiques qui devaient être versées au parti. Et puis qui, comme premier invité des matins, Olivia ?
Jeunesse et verticalité du pouvoir, ce sera pour le quoi et le qui. Ce sera Jean-Pierre Le Goff, sociologue, auteur de La France d'hier. Il est le grand invité de ces matins du lundi, Camille Manière.
Sera-t-il un simple président, un raïs ou bien un sultan des temps modernes ? C'est en tout cas un pouvoir très largement renforcé que va endosser ce lundi Recep Tayyip Erdogan, plus que jamais seul et puissant à la tête de la Turquie. Il prêtera serment cet après-midi pour un second mandat présidentiel dans un système politique lui aussi désormais très très présidentiel. Analyse à Istanbul d'Anne Andlauer.
Adieu système parlementaire, place à l'hyper-présidence. Le régime politique qui entre en vigueur en Turquie s'appelle officiellement système du gouvernement de la présidence du peuple. Derrière ce nom alambiqué se cache un régime sans équivalent puisqu'il a été pensé et écrit par et pour un seul homme, un seul président, Recep Tayyip Erdogan lui-même. C'en est fini du poste de Premier ministre. C'est le chef de l'État qui décide seul de presque tout au mépris de la séparation des pouvoirs. Tayyip Erdogan domine directement et indirectement le Parlement et les hautes juridictions. Pour les citoyens, cela veut dire, sans doute, une justice encore plus expéditive, des décrets encore plus répressifs contre lesquels l'opposition n'aura pas de marge de manœuvre et un contrôle sur la société, des médias aux associations encore plus resserrés. Cela fait déjà 15 ans que Recep Tayyip Erdogan est au pouvoir et ce nouveau mandat de 5 ans, renouvelable, l'emmène jusqu'en 2023, année du centenaire de la République. Plus que jamais, Erdogan se pose en fondateur de ce qu'il appelle la « Nouvelle Turquie », un État qui n'a décidément plus grand-chose de l'État de droit.
Anne Andlauer à Istanbul, où le jour de sacre donc de l'hyper-président Erdogan est endeuillé par cette catastrophe ferroviaire, de fortes pluies, un glissement de terrain et ce déraillement de train qui a fait hier 24 morts et 734 blessés dans le nord-ouest du pays. La Tunisie, elle, n'avait plus connu d'attaque terroriste aussi meurtrière depuis 2 années. 6 soldats de la garde nationale tunisienne ont été tués, 3 blessés hier dans le nord du pays, la province de Gendouba, près de la frontière avec l'Algérie. Pas de revendication pour le moment, mais une qualification terroriste immédiatement brandie par les autorités de Tunis, où nous retrouvons Maureen Mercier.
Les 6 membres de la garde nationale patrouillaient dans 2 véhicules à 190 km de la capitale lorsqu'une mine anti-char a explosé sur leur passage. Pour trouver pareille action sanglante, il faut remonter à mars 2016, l'attaque de Ben Gardan, près de la frontière libyenne. Bilan, 13 morts parmi les forces de l'ordre. L'attentat commis hier intervient en pleine crise politique. Le ministre de l'Intérieur a été démis de ses fonctions le 6 juin dernier. La raison, des luttes de pouvoir au sommet de l'État. Conséquence, la Tunisie, en pleine saison touristique, doit se contenter d'un ministre de l'Intérieur par intérim, Razi Djeribi, qui hier déclarait ceci « Nous irons jusque dans les repères des combattants et nous vengerons le peuple tunisien ». 2 groupes terroristes sont installés dans les monts qui séparent la Tunisie de l'Algérie. L'un affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'autre à l'État islamique. C'est dans cette partie du pays que les forces de l'ordre ont essuyé le plus grand nombre de victimes depuis la révolution de 2011. Depuis 2 ans, et malgré cet attentat, la sécurité s'est nettement améliorée dans le pays. Mais la Tunisie reste sous état d'urgence. Cet acte terroriste va encore aggraver la crise politique. Les premières voix pour réclamer la tête du Premier ministre se sont déjà fait entendre, alors que la cérémonie nationale d'hommage aux victimes doit se tenir ce matin.
Correspondance depuis Tunis de Maureen Mercier. C'est un coup de tonnerre à Londres. Le ministre britannique David Davis, en charge du Brexit, a annoncé cette nuit sa démission suite directe mais inattendue de cet accord qui avait été arraché vendredi par Theresa May à son gouvernement sur une position commune appelant un Brexit Brexit plutôt doux. David Davis faisait partie de ceux qui réclamaient une rupture beaucoup plus franche. Dans sa lettre de démission, David Davis donc rappelle ses désaccords de fond avec la Première ministre. L'intérêt national, explique-t-il, nécessite un ministre qui croit avec ferveur à votre position et pas seulement un conscrit réticent. Theresa May a salué cette démission peu de temps après son annonce.
7h05 sur France Culture, la suite de votre journal, Camille Magnard. Et on reste à Londres où s'est achevée hier la marche citoyenne de solidarité avec les migrants. Elle s'était lancée à la fin du mois d'avril de Ventimille à la frontière entre l'Italie et la France.
Et composée de dizaines de militants et de sans-papiers, cette marche aura donc traversé la France, puis la Manche, tout au long du périple suivi chaque année par des milliers d'exilés. Tout au long du chemin, il s'agissait de fédérer les bonnes volontés citoyennes pour accueillir dignement les migrants, de sensibiliser aussi ceux qui restent réticents. Un discours qui a donc porté jusqu'au cœur de Londres, Marina Darras.
À l'entrée d'Hyde Park, les marcheurs sont accueillis par des associations locales qui se battent elles aussi pour les droits des réfugiés. Maya Conforti, la secrétaire de l'association calaisienne L'Auberge des Migrants, a fait partie du cortège depuis le tout début.
On est émus parce qu'on rencontre beaucoup de gens qu'on a connus dans la grande jungle de Calais, des gens qui sont passés, qui ont eu leurs papiers, beaucoup de bénévoles aussi. Et puis aussi, c'est la dernière étape de cette grande marche qui a duré 1400 kilomètres. C'est extrêmement émouvant.
Londres, ville symbolique qui est souvent synonyme de destination finale pour beaucoup de migrants, mais qui reste très difficile à atteindre. Plus d'une vingtaine de personnes participant à l'événement ont d'ailleurs été retenues par les autorités au moment de passer la frontière. Elles ont été emmenées au centre de rétention de Coquel et certaines y sont toujours. Johan est belge, il fait donc partie de ceux autorisés à passer la frontière.
C'était magnifique de rencontrer des autres gens de France, d'Angleterre, aussi de la Flandre et de la Belgique, mais surtout avec les sans-papiers et les gens qui essayent de trouver une autre vie. J'ai ici le portrait d'Abidjan. C'est devenu un ami. Quand je passais à Calais, j'ai pleuré parce qu'il ne pouvait pas passer.
Mais après 1500 kilomètres et une soixantaine d'étapes à travers la France, les marcheurs sont plus déterminés que jamais à se battre pour l'accueil des migrants, la libre circulation des personnes et contre le délit de solidarité.
Un reportage signé Marina Darras à Londres. On va refermer cette page britannique de notre journal avec l'annonce de la mort hier soir à l'hôpital de cette femme âgée de 44 ans qui avait été contaminée avec son mari à l'agent toxique de fabrication russe Novichok, celui-là même qui avait intoxiqué l'ex-agent secret russe Sergei Skripal et sa fille il y a maintenant 4 mois. La violence qui flambe à nouveau au Nicaragua. Au moins 14 personnes sont mortes ce dimanche dans des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants hostiles au président Ortega qui tenaient des barricades dans deux villes du département de Carazo. C'est dans le sud-ouest du pays. La contestation au Nicaragua dure depuis des mois. Elle a fait plus de 240 morts dans les rangs des policiers mais principalement dans ceux des manifestants d'opposition.
Le Rassemblement National, ex-FN, dénonce ce matin une justice militante et un gouvernement des juges, Camille Manière.
Dans le viseur du parti d'extrême droite, il y a ces juges d'instruction qui, à la fin du mois de juin, ont ordonné la saisie de 2 millions d'euros d'argent public qui était destiné au budget du parti. Le RN privé donc de cette subvention liée aux dernières élections législatives, un énorme trou dans son budget et surtout une première conséquence de l'enquête sur les emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires Front National au Parlement européen, Charlotte Pierre.
Des assistants parlementaires qui ne travaillaient en réalité que pour le Front National, permettant au parti plus d'un million d'euros d'économies par an. Tels sont les éléments reprochés aux 10 mis en examen dans ce dossier, 9 députés européens et leurs assistants, ainsi que le parti lui-même. C'est d'ailleurs cette personne morale qui est visée par la décision des juges d'instruction de saisie pénale à titre conservatoire. Traduisez, la rétention de 2 millions d'euros que devait percevoir le mouvement au titre de l'aide publique aux partis politiques et que les juges préfèrent donc conserver en garantie en cas de condamnation à rembourser les 7 millions d'euros de préjudice estimés à ce stade, une disposition tout à fait légale. Dès hier, la présidente du mouvement, Marine Le Pen, a annoncé son intention de faire appel, appel qui n'est cependant pas suspensif. Quoi qu'il en soit, le parti ne percevra pas l'argent escompté la semaine prochaine, ce qui fait crier ses dirigeants à l'assassinat politique, à la condamnation, à la cessation de paiement dès le mois d'août, dirigeants qui n'hésitent pas non plus à parler d'une manœuvre militante et d'impartialité des deux magistrats instruits.
L'actualité politique, c'est aussi et surtout le congrès députés et sénateurs convoqués à Versailles pour entendre le discours annuel de politique générale d'Emmanuel Macron. Les élus France Insoumise et certains des Républicains boycotteront ce rendez-vous dont ils dénoncent l'arrière-goût monarchique et le caractère à sens unique. Les représentants du peuple, il faut bien le dire, n'auront pas la possibilité de questionner le chef de l'État sur sa politique. Ce congrès de Versailles, ce sera l'un des titres de notre journal de 8h. Un coup d'œil sur la météo de ce début de semaine, toujours aussi ensoleillé et chaude. avec ce matin déjà des températures partout supérieures à 22 degrés. Cet après-midi, on va atteindre les 35 degrés sur Nîmes, 26 à Biarritz, 27 à Strasbourg, 28 à Paris et Brest et autour de 30 degrés dans l'intérieur du pays, Olivia Gesbert.
Et on le voit bien ce soleil qui illumine le studio des matins de France Culture. Merci Camille Magnat, rendez-vous à 7h30 pour un prochain point sur l'info.